La main à la pâte, un cycle d'émissions proposé par les réseaux Impact Centre et Impact 37. Nous sommes Julie et Léna, salariées d'Impact.
Dans chaque émission, nous vous emmenons à la rencontre d'associations, d'élus ou de citoyennes et citoyens qui mettent la main à la pâte pour rendre le monde agricole plus durable.
Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons dans ce nouvel épisode la thématique de l'ergonomie et du handicap sur une ferme. Nous retrouvons ce mois-ci les deux protagonistes que nous avions écoutés lors du dernier épisode. Souvenez-vous, Pascal est apiculteur dans l'Indre en situation de handicap. Dans l'impossibilité physique de soulever des charges lourdes, alors que l'apiculture est une activité qui demande un engagement physique particulièrement élevé, Pascal a pensé son installation en fonction de ses limites physiques afin que ses outils et son rythme de travail soient en adéquation avec ses capacités. Ainsi, tous les éléments qui doivent être soulevés sont mis sur des palettes en bois et sont soulevés par un chariot robot très puissant qui porte les charges à la place de Pascal. En parallèle, le mois dernier, nous avions écouté également les propos de Josiane Voisin, qui est ergonome. Son parcours est ancré dans les réseaux d'agriculture paysanne, puisqu'elle a accompagné des groupes d'agriculteurs dans le cadre de l'association de l'ADAR-CIVAM, et elle est aussi actuellement bénévole au sein de l'association Solidarité Paysan. Josiane et Pascal poursuivent dans cet épisode la discussion autour du bien-être au travail. Alors pour commencer, Pascal, ressens-tu du plaisir dans ton activité ?
Du plaisir, oui. Beaucoup de plaisir. D'abord sur le fait qu'au bout de 4 ans, ben, je suis toujours là et le dos a tenu. et qu'ensuite, les résultats sont plutôt bons. Après, je ne voudrais pas continuer au rythme que j'ai maintenu là depuis 4 ans. Voilà, ça c'est hors de question. Et cette année, voilà, il est vraiment prévu que je prenne un salarié sur saisonnier sur la période qui ira d'avril jusqu'en août. Et je pense que là, effectivement, ça va nécessiter de la réflexion sur l'organisation, parce qu'effectivement, quand on a pris l'habitude d'être seul et de travailler toujours seul, à un moment donné, il faut être en mesure de pouvoir déléguer et puis de décharger un petit peu du travail au rucher, sur les récoltes, etc., auprès d'un salarié qui me permettra de dégager du temps. Mais aujourd'hui, voilà, je pense être arrivé un petit peu au bout de la quantité de travail que je puisse fournir. Et il est vraiment temps que je m'organise convenablement avec de l'aide, avec un salarié sur la ferme avec moi.
En fait, intégrer quelqu'un de la main-d'œuvre supplémentaire, mais une personne qui va réaliser le travail avec l'agriculteur, c'est presque toujours difficile. Moi, je dis ça pour rassurer les personnes qui vont être dans cette situation de devoir déléguer, parce que des fois, ils se disent « mais c'est pas possible hein. ». Ou soit ils se disent « c'est l'autre qui est nul, il travaille pas comme je voudrais », soit ils se disent « mais c'est moi qui n'y arrive pas et je suis nul ». Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est difficile de déléguer son travail. Pourquoi ? Parce que quand on est agriculteur, son travail, on l'a construit progressivement, on a un peu changé, adapté ses façons de faire. Au jour J, notre façon de faire, c'est la meilleure qu'on ait trouvée. Du coup, quand on va déléguer à quelqu'un, alors déjà, on va plus ou moins, selon les personnes, on va plus ou moins bien savoir expliquer et montrer son travail. Donc, ça va demander un effort. Et en plus de l'autre, ben forcément ne pas faire le travail exactement comme l'agriculteur, lui, le fait. Et ça fait peur, parce qu'on a l'impression que, comme nous, on le fait pour le mieux de ce qu'on a trouvé, on pense que l'autre, peut-être, sa façon de faire, elle va dégrader les résultats. Et puis, on ne supporte pas que l'autre ne fasse pas comme nous. C'est parce que notre travail, en fait, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose qu'on a construit au fur et à mesure. Ça fait partie de notre intimité, vraiment. Ça, moi, je l'affirme haut et fort. J'ai mis quelque temps à le comprendre, mais et je pense que ça fait aussi, c'est-à-dire que quand on délègue, il y a une part de risque parce qu'on a peur que l'autre ne fasse pas aussi bien, mais c'est pas parce qu'on est idiot, c'est voilà, c'est pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais en plus, c'est donner quelque chose qui nous appartient vraiment et qui nous est propre. Et ça, c'est pas si évident non plus parce que souvent, on le délègue à quelqu'un qu'on connaissait pas avant. Enfin voilà. Et il va falloir le partager.
Mais effectivement, les 2 premières années, la période de Noël, enfin, c'était bien rare que je me couche avant 1 h du matin. Donc, et ça, à répéter, on finit par accumuler de la fatigue. Donc ça, c'est des choses qui s'améliorent avec le temps. Et effectivement, l'idée sur une telle installation, c'est après plutôt d'avoir du personnel, soit de manière sporadique. Et après, peut-être aussi, faut-il se faire aider quand on fait de la vente directe sur les périodes un peu plus intenses, sur novembre-décembre.
L'agriculteur, lui, qui est en situation de handicap, ça dépend un peu des personnes. Il y a des personnes qui vont tout de suite se dire oui, c'est un soulagement et ça va me permettre, voilà. Mais c'est quand même malgré tout, c'est un deuxième cap à dépasser quand on arrive dans cette situation-là. Il y avait le premier cap dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est de se dire, bon, il va falloir changer des choses, il va falloir aménager. Mais quand on arrive au cap où on se dit, il y a une partie du boulot, il va falloir que je le délègue à quelqu'un, c'est une deuxième étape un peu de difficulté, souvent quand même. Pour toutes les raisons aussi qu'explique Pascal, donc il y a la délégation, il y a aussi la réorganisation, et en fait le métier va changer pour l'agriculteur qui est installé là, parce que en fait lui, il va falloir qu'il prépare, qu'il anticipe, qu'il organise le travail pour la personne, il va falloir qu'il devienne un peu employeur, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il délègue, après il va falloir qui regarde un peu comment c'est fait, si ça va, qui rediscute, qui soit un peu pédagogue aussi, plus d'autres choses à organiser, hein, les horaires, il faut aussi organiser ce qu'ils mangent sur place ou pas. Enfin, voilà, on devient un peu employeur. Et la plupart des agriculteurs, ben, ils n'ont jamais trop fait ça, quoi.
Ma grande satisfaction, c'est justement que le projet s'est réalisé, on va dire, à peu près exactement comme je l'avais conçu. Et peut-être même en mieux, parce que sur l'équipement, notamment de transhumance, je ne pensais pas m'équiper de cette manière. J'ai pu trouver un véhicule plateau qui reste de taille raisonnable avec mon installation, mais qui permet également d'avoir une capacité conséquente, un équipement en termes de remorque. Extrêmement sérieux, plus le bon appui, enfin c'était vraiment idéal. Et je suis vraiment très satisfait par rapport à ça. Le seul point effectivement plutôt un peu négatif, c'est, on en parlait tout à l'heure, l'organisation du travail. Aujourd'hui, je passe beaucoup de temps, trop de temps. Je n'arrive pas à dégager du temps à titre privé.
En fait, l'ergonomie, elle regarde toutes les dimensions du travail. C'est-à-dire que bien sûr, on va s'intéresser au travail physique, biomécanique. C'est ce qui est le plus connu. Donc, on va s'attacher à regarder un peu les postures. Est-ce qu'on sollicite le dos, les épaules, etc. Est-ce qu'on porte des charges lourdes? Ça, c'est voilà, c'est très, très connu. Mais on ne regarde pas que ça. L'ergonomie va aussi s'intéresser à la charge cognitive, par exemple. Est-ce que j'ai beaucoup de choses à mémoriser? Est-ce que j'en ai plein la tête, grosso modo? Est-ce que j'arrive plus à me vider la tête? Et on voit le contraire, par exemple, dans certaines usines, on voit des gens qui s'ennuient parce qu'ils n'ont pas grand-chose à penser. Il y a aussi dans le travail, il y a aussi le subjectif, c'est est-ce que mon travail me plaît? Est-ce que je me lève facilement le matin avec l'envie d'y aller ou au contraire le matin, voilà, c'est dur. Il y a le côté social, c'est aussi est-ce que j'ai des collègues avec qui je me réunis? Est-ce qu'avec ces collègues, avec qui je me réunis ou avec qui on s'entraide, par exemple, qui me font appel? Est-ce que moi j'ai besoin d'eux? Est-ce qu'eux, ils ont besoin de moi? Est-ce qu'on a des moments un peu de convivialité où on apprend à se connaître autrement que par le boulot? Est-ce que ces gens-là, c'est des ressources pour moi? Est-ce que le jour où j'ai un pépin, je peux les appeler? Voilà. et que la confiance est là et on peut dire ce qu'on a envie de dire et personne ne va nous juger, on va juste nous dire voilà, tu exagères, mais ça va toujours être toujours bienveillant et toujours dans le sens d'essayer d'aller un peu plus loin.
Effectivement, moi, je suis très impliqué, en fait, dans le plus... Voilà. En fait, je suis plus dans la coopération que dans la concurrence. J'échange beaucoup avec les collègues apiculteurs. Je fais partie de l'ADAPIC, que c'est l'association des ADAM en région centre.
ADAPIC signifie Association de développement de l'apiculture. Ces actions sont tournées vers l'aide aux apiculteurs dans leurs projets et dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Cette association a également pour ambition de faire connaître les abeilles, les produits de la ruche et le métier d'apiculteur.
Voilà, donc à travers cette association, on a beaucoup d'échanges, il y a eu des visites de mielleries, d'installations, et donc notamment par rapport aux porteurs de projets. Et j'ai reçu déjà quelques porteurs de projets qui sont venus voir mon installation.
Un ou une porteuse de projet est une personne qui souhaite s'installer en agriculture. Pour l'accompagner dans ce processus, différents dispositifs sont proposés par les associations du réseau Impact Centre, comme le stage paysan créatif que Pascal mentionne à plusieurs reprises.
Donc voilà, moi je reste vraiment dans le partage et ça me paraît très important. Également, dans le cadre du stage paysan créatif, le fait d'avoir eu recours à la GFIP a permis de réorienter d'autres personnes qui ont eu recours également à l'aide à GFIP.
La GFIP, c'est l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
Donc ça a été quelque chose qui a permis au fait de partager cette expérience. On bénéficiait également d'aides équivalentes.
Et les thématiques de l'ergonomie et du bien-être au travail, c'est des thématiques que vous pouvez aborder ?
Alors, effectivement, pour l'instant, ce qui avait été abordé, c'était plus des aspects liés à la production. Mais effectivement, c'est des thèmes qu'on pourra mettre un petit peu sur le tapis pour pouvoir débattre sur le sujet.
Dans le monde agricole, il y a des prescripteurs. Les prescripteurs, c'est des personnes qui vont avoir une influence relativement forte sur l'agriculteur pour lui dicter un peu ce qu'il doit faire. Par exemple, on entend souvent la banque qui va conseiller à l'agriculteur de s'agrandir et sinon on ne va pas lui donner, on ne va pas lui attribuer le prêt qu'il demande, par exemple. Donc les prescripteurs, c'est ça, c'est les parents qui vont dire « Non mais tu vois bien, tu vas te casser la figure, enfin c'est pas possible, il ne faut pas faire telle culture, il ne faut pas faire je ne sais pas quoi. » Ça peut être des collègues aussi qui, enfin on voit ça assez souvent quand quelqu'un s'installe et met en place une production un peu novatrice ou qui est très différente de ce que faisait l'agriculteur précédent, ben tout le monde regarde ça d'un drôle d'œil et ce regard-là, il est difficile pour celui qui le subit. Alors moi, j'appelle ça des prescripteurs parce que c'est des gens, c'est des personnes ou des institutions qui, en fait, ont un poids sur l'agriculteur en lui dictant quelque part une façon de faire qui n'est pas exactement ce que lui voulait faire. Alors ça peut être la même chose, et là, très bien. Ça peut être très différent. Le fait que ce soit différent, ça peut être très bon, parce que des fois, ça peut être des alertes aussi. On n'a pas la science infuse tout seul. Des fois, on a envie de faire des choses qui vont peut-être aller un peu au casse-gueule. Parfois, ça peut aller jusqu'à ce que ça va pousser l'agriculteur à faire des choses qui sont complètement contraires à sa vision de son propre métier. Il faut savoir garder toujours un peu la vision de son propre métier. Il faut savoir faire des compromis, certes, mais... toujours garder sa propre vision du métier, parce que sinon on va finir par faire un métier qu'on n'a pas envie de faire. Et là, ça commence à aller mal.
La main à la pâte. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui veulent s'installer, ou voilà, des personnes qui voudraient s'installer aujourd'hui? pour justement penser une installation qui se passe dans les meilleures conditions possibles, à la fois physique, psychologique, etc.
Alors, je serais tenté de dire, alors, si on peut limiter déjà l'activité apicole, puisque c'est le domaine que je connais, je commencerai par dire, eh bien, démarrer par une à deux saisons chez un apiculteur pro. Pour bien se rendre compte, d'une part, de ce que représente le travail d'apiculteur, sur le terrain, dans les ruchers, donc en pleine saison, les moyens nécessaires pour exercer cette activité, et ensuite tout ce qui va avec, c'est-à-dire que effectivement, moi, à titre d'exemple, alors moi je fais ma propre compta, hein, j'ai un petit logiciel et je fais tout de A à Z, mais voilà, effectivement, ça, c'est du temps, peut-être sur une semaine de période hivernale où on souhaiterait faire autre chose, ben non, on fait la compta, etc. Donc, commencez par une expérience chez les professionnels, et ensuite, réfléchissez bien, et là, on rentre vraiment dans la thématique d'actualité, à la commercialisation. La commercialisation, c'est produire, on arrive tous à produire. Avec le temps, on apprend à mieux gérer son cheptel, on apprend à combler les pertes hivernales, etc. On y arrive toujours. En revanche, la vente, si on ne vend pas ses produits ou son produit, eh bien, ça reste très compliqué. Donc, effectivement, moi, je connaissais cette problématique. Ça fait plus de 30 ans que je faisais un petit peu d'apiculture. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai commencé à vendre dès le départ. Voilà. Donc, ça permet de se faire connaître sur le terrain. En revanche, on est dans un département, le département de l'Inde, qui est très rural. On est beaucoup d'apiculteurs. Et effectivement, le marché n'est pas extensible. Donc, il n'est pas suffisant pour me permettre de vivre de ce métier. Voilà, très clairement, en passant beaucoup de temps sur les marchés. Aujourd'hui, globalement, si je n'avais pas la vente en gros, je ne pourrais pas me rémunérer. Voilà, la vente directe paierait toutes mes charges et après la rémunération serait très faible. Et là, effectivement, c'est la vente en gros qui peut permettre cette rémunération et également de financer un salarié en période estivale.
La vente en gros consiste à vendre en grande quantité ses produits auprès d'intermédiaires, qu'il s'agisse de commerciaux ou de distributeurs. Ces derniers les revendront ensuite, en gros, à d'autres entreprises.
Eh bien, deuxième conseil, l'organisation sur votre exploitation, parce que ça, c'est primordial. Eh bien, le retour d'expérience, il faut de l'espace, il faut du bâti, et derrière, il faut de l'équipement. Voilà. Pour ma part, j'étais parti, moi, avant le stage paysan créatif, j'étais plus sur l'autofinancement, 120 ruches maxi, que la vente directe, etc. Et puis rapidement, effectivement, et ça c'est aussi l'aide des collègues, hein, parce que alors, je ne sais pas si je peux citer Emmanuel Roger, voilà, qui a été mon tuteur pendant le stage SPC, hein, voilà, qui m'a bien guidé sur les choix stratégiques, les investissements. C'est lui qui m'a donné aussi confiance dans le fait que voilà, fallait s'équiper tout de suite et avoir recours à l'emprunt, alors que je n'avais pas du tout envisagé ça à l'origine. Donc un bel équipement, un réseau commercial qui est porteur, et puis une bonne expérience à travers une à deux années passées chez un apiculteur professionnel, et puis accessoirement pour ceux qui se reconvertissent, un stage paysan créatif, et là, c'est parfait pour votre avenir.
Traditionnellement, ou jusqu'à il y a quelques années, mais c'est encore vrai, les agriculteurs sont plutôt des personnes qui sont courageuses au travail, qui ne rechignent pas devant la tâche. Ça, c'est plutôt une qualité. Mais le pendant, c'est qu'ils sont prêts à aller souvent trop loin. D'abord parce qu'on n'est pas dans un métier où on ne travaille pas. Enfin, voilà. Quand il y a du boulot, on le fait. Ça, on l'entend, je ne sais pas combien de fois. Bon, voilà. Bien sûr, c'est bien de parler du travail, mais quand le boulot est là, il faut le faire. Et ça, c'est un peu une façon de ne pas vouloir le regarder parce que alors, ce n'est pas une critique quand je dis ça, c'est qu'on ne sent pas la solution, mais c'est quand même un métier, mais comme étaient les métiers du bâtiment, par exemple. C'est, C'est des métiers où on est dur au mal, quoi. Et tant qu'il y a du boulot, on y va et tête basse, hein, voilà. Parce qu'il faut le faire. Alors après, les agriculteurs, en plus, ils ont plein de mauvaises excuses. Il y a les animaux, on ne peut pas ne pas s'en occuper, on ne peut pas, voilà, c'est pas possible. Vous vous rendez pas compte, ils sont vivants. Il y a le climat aussi, quand c'est le moment d'y aller, il faut y aller. Alors tout ça, c'est vrai. Sauf que ça ne peut pas être une excuse, parce qu'il y a toujours d'autres façons de faire. Voilà. Les choses changent. Je trouve que vraiment les générations qui s'installent là depuis 5, 10 ans, je ne sais pas exactement la date, hein, je dirais une bêtise, mais sont plus sensibles à ces questions-là, ont plus envie quand même aussi de prendre des vacances, d'avoir une vie qui soit plus conforme aussi à ce que vivent les autres métiers et voilà, penser à sa famille, etc. Donc pour nous, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est encore pas gagné. C'est pas encore gagné. Il y a des tas de raisons. Alors, il y a toujours des personnes qui pensent que le boulot, plus il y en a, plus on en fait, plus on est courageux et mieux c'est. C'est normal quand on s'installe qu'on travaille beaucoup. Parce qu'il y a plein de choses à faire et parfois il y a aussi la maison d'habitation à restaurer en même temps, etc. Et puis il y a quand même l'installation, la ferme à mettre à sa main. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Et en plus, parfois les gens débutent, donc on va moins vite aussi, on est moins efficace, etc. Mais à ce stade-là, des 5 ans, moi je pense qu'il faut vraiment se poser, réfléchir et se dire, voilà, est-ce que le boulot, ça va? Ou bien, si ça ne va pas, comment je peux faire? Parce qu'on ne peut pas vivre toute sa vie en étant au boulot tout le temps. Ce n'est pas possible, c'est que nous, humains, on n'en est pas capable de ça. Ce n'est pas une question de courage ou de toutes ces valeurs pseudo-morales, c'est qu'on ne peut pas. Et que du coup, la maladie va arriver. La maladie et tous les soucis qui vont avec, que ce soit sociaux, on va finir par s'isoler ou. Voilà, en famille, ça ne va pas aller, les enfants font des reproches, des choses comme ça, et ça devient quasi invivable, quoi. Ça, c'est vraiment très, très important.
La main à la pâte.
Du coup, comment faire pour réfléchir à ces questions un peu de travail? Si les personnes qui écoutent le podcast pouvaient penser ne serait-ce qu'à ça, retenir que ça, c'est de temps en temps de se dire dans l'année, je sais pas, une fois par an, deux fois par an, trois fois par an, se dire est-ce que bon boulot, ça va, ou bien est-ce qu'il y a des choses qui vraiment m'embêtent beaucoup? Ça peut être une possibilité. Il y a d'autres possibilités. C'est au cours du travail de se dire à un moment donné. Mais purée, ce truc, ça m'embête vraiment, quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et pas faire forcément des choses très importantes, mais de se dire, tiens, ben, je sais pas, ça m'embête quand on distribue de l'alimentation ou en maraîchage, quand on fait certaines tâches, se dire, oh, mais ça, c'est trop pénible. Enfin, ce matin, je voulais pas me lever parce que rien que de penser à ça, j'ai pas envie de me lever, quoi. C'est pas marrant. Du coup, d'aller voir des collègues, d'en discuter, chercher des idées. Questionner les collègues, peut-être qu'on peut être trois ou quatre à avoir la même question et du coup on va chercher ensemble, voilà. Mais c'est comment au cours de son travail ou au cours de l'année, on a tout le temps, au lieu de comme on fait pour l'économie, où on se dit tout le temps où j'en suis, est-ce que j'ai assez de trésorerie? C'est à un moment donné de se dire, bon ben si je regardais comment ça va le travail pour moi et de se dire, ben je sais pas, au 1er janvier, de se dire. En fait, qu'est-ce que je pourrais, sur quoi je pourrais travailler cette année pour essayer d'améliorer? Alors, ça peut être tout bête, hein. Il y a des gens, ça peut être juste d'acheter une brouette distributrice pour distribuer le concentré sans porter. Ça, c'est la première chose. C'est d'accepter de regarder un peu son travail et de le remettre en cause et de se dire, d'être attentif à ce qu'on ressent pour essayer de repérer soi-même ce qui ne va pas.
C'est vrai que c'est bien de. Alors, c'est vrai que c'est du temps, mais c'est bien. C'est bien de faire un point comme avec toi aujourd'hui, parce que voilà, on fait un petit arrêt sur ce qu'on a fait. Et ça, c'est bon. Au quotidien, c'est toujours speedo, il y a toujours à faire, il y a toujours ci, il y a toujours ça. Puis à un moment, quand on est un peu creux, on ne voit pas forcément les choses sous un aspect positif. Et quand on se pose et qu'on regarde avec du recul, là, on dit « Ah, quand même, on a fait quelque chose.
» Oui, d'avoir une reconnaissance.
Voilà, enfin, moi, j'ai besoin de ça, hein, ouais, sincèrement. Ouais. Si je croule sous le boulot, qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément, je ne vais pas avoir d'entrain au boulot et ça va bien se passer. Ouais, j'ai besoin de voir les choses positivement. Enfin, je pense qu'on est tous pareils. Hein, mais, voilà.
Et le deuxième truc, qui est vraiment très important, c'est d'essayer, je dis d'essayer parce que je sais que ce n'est pas facile, d'être attentif aux signaux. Souvent, c'est un espèce de renversement de façon de penser. Un agriculteur, lui, souvent, il se dit « Moi, de toute façon, je n'ai pas le droit d'être malade, donc je ne suis pas légitime à penser qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Je n'ai pas le droit d'être malade parce que, de toute façon, moi, il faut que j'aille soigner mes animaux, il faut que j'aille dans mon champ de maraîchage, etc. » parce que c'est du vivant et que voilà, il faut que j'y aille. Donc, je n'ai pas le droit d'être malade. Donc, je ne m'écoute pas. Je caricature un peu, mais on est un peu là-dedans. Alors, moi, je fais un peu exprès, mais je ne crois pas avoir tort non plus. J'ai l'habitude d'expliquer que, en fait, c'est parce que l'entreprise ne peut plus tourner correctement si l'agriculteur n'est pas là, qu'il faut le plus tôt possible essayer de prévenir toutes les difficultés qui vont dégrader la santé. En fait, on retourne la logique. Donc, j'insiste, en fait, faut s'alerter ou même penser à ses conditions de travail. Mais c'est à chacun aussi, à chaque instant, de se dire « mais est-ce que je ne pourrais pas faire autrement ?» pour justement ne pas me faire mal, ne pas user mon dos, parce que c'est, enfin, et même la charge mentale, hein, on peut, tout à l'heure on parlait du travail administratif, on peut aussi déléguer une partie du travail administratif. Alors après, je sais bien que voilà, ça va avoir un coût et qu'il va falloir le régler ce coût-là, mais des fois on peut changer aussi un petit peu des choses sur l'exploitation pour avoir des marges économiques supplémentaires et aussi se décharger d'un travail qui vraiment nous pèse et nous prend la tête. Je crois qu'il faut vraiment ouvrir sur tout et alors surtout bien se garder ce qu'on aime faire, mais on peut aussi se décharger un peu, quoi. Je crois qu'on avait oublié qu'en fait on avait des limites et on est en train de découvrir, de redécouvrir et de voir que si on dépasse trop nos limites, en fait, on se dégrade, quoi. On dégrade sa santé et que l'humain, ce n'est pas une voiture. C'est-à-dire qu'une fois que c'est dégradé, ça ne se répare pas comme ça, quoi. Voire ça ne se répare pas du tout. Donc, c'est quand même le plus gros capital qu'on ait, c'est quand même celui-là. Et on ne peut pas emprunter pour le changer.
C'était La main à la pâte, un cycle d'émissions proposé par les réseaux Impact Centre et Impact 37. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.